Chapitre 2. La veille du départ. Le voilà, on le tient. Il est commencé depuis une heure, ce long congé de 2 mois dont les bons écoliers jouissent plus encore que les autres. Maurice et Gaston ont eu de nombreuses nominations à la distribution des prix. Leurs sœurs sont heureuses de porter les livres et les couronnes. Les bébés se disputent pour les prendre, tandis qu'ils disent à Léon de Valerie, le frère cadet de Maurice. « Pourquoi n'as-tu rien? Tu n'as donc pas bien travaillé, toi? Tu verras, quand je serai grand, que j'aurai 10 ans et demi, moi aussi, comme j'aurai des prix, haut comme cela !» Et Marcel élevait sa petite main au niveau de sa tête. C'est que Léon avait surtout usé son encre à faire des bonshommes sur ses cahiers. Plusieurs fois, la caricature de ses camarades, ou même celle d'un professeur, avait été saisie et lui avait valu de graves punitions au collège et de sévères réprimandes de ses parents. Tous les cousins et cousines, réunis dans un petit salon, causent bruyamment pendant que M. de Valerie feuillette les volumes de prix. Renée est triomphante. Avec son frère, elle accompagne sa mère dans les Pyrénées. La petite Alice, qu'un aussi long voyage fatiguerait, fera partie de la nombreuse bande pour laquelle la famille de Valerie a loué un chalet à Trouville. Le départ est fixé au surlendemain. Madame de Valerie entra.
« Mon ami, quel contre-temps ! Émile vient de recevoir une lettre de son pays où on le réclame près de son père, dangereusement blessé en tombant d'une échelle. Il faut qu'il s'en aille, je comprends. Mais combien son service va nous manquer au moment de notre départ ? Il nous propose bien un cousin tout frais débarqué de son village, honnête garçon dont il répond. Monsieur de Valerie. Très bien, mais que faisait-il au village, son cousin? S'il était sabotier ou garçon de ferme, cela ne saurait nous convenir. Madame de Valerie. Émile m'a dit qu'il avait servi chez le notaire de la localité, ce qui a dû le débrouiller un peu, et puis nous n'avons guère le temps de chercher un domestique si nous ne voulons pas retarder le départ pour Trouville.
Oh non, je vous en prie, s'écrièrent les enfants. Comme c'était aussi l'avis des parents, il convint de prendre le jeune villageois. Le lendemain, Maurice entra comme un tourbillon dans la chambre d'études, où ses sœurs préparaient les livres à emporter, car Hélène et Blanche sont très studieuses pour des petites filles de 9 ans et 7 ans. Maurice. Vous avez vu hier l'air godiche du nouveau domestique pendant qu'il servait à table? Il promet d'être aussi stupide que possible. N'a-t-il pas imaginé d'arroser dans le salon la jardinière qui est sur la table en prenant un des grands arrosoirs du jardin? Vous voyez qu'elle marre tout autour. Heureusement que le tapis de peluche brodé était serré à cause du départ, à ce qu'a dit Mariette, qui réclamait une éponge à grands cris pendant que Nicolas restait là comme une statue. Enfin, comprenant qu'elle voulait essuyer la table et le parquet, il est sorti du salon pour rapporter un instant après un ballot de serviettes damassées. Mariette était d'une colère. Elle l'a appelé gros imbécile. C'était bien mérité. Les deux sœurs rirent de cette bêtise aussi bruyamment que Maurice, ce qui attira le petit frère. Marcel.
Pourquoi vous riez, dites? C'est drôle? Moi, je veux rire aussi.
Tu ne comprendrais pas, ce n'est pas de ton âge.
Marcel. Vraiment? À 5 ans, ne pas comprendre? Je suis plus un petit maintenant. On m'habille en homme et je veux tout savoir.
Il allait se mettre à pleurer lorsque Blanche eut la bonne idée de l'employer à faire des commissions. Chargé de livres jusqu'au menton, il alla les déposer dans la pièce à côté, où se faisaient les emballages. Ce qui, chez les grandes personnes, est l'ennui d'un voyage, en commence le bonheur pour les enfants. Quel joyeux désordre! Dans cette chambre, on voyait pêle-mêle, joujoux, livres d'études, objets de toilette, instruments de pêche, etc. C'est que tous auraient voulu tout emporter.
Hélène. Qu'est-ce que c'est que cela?
La cage de la petite Alice avec ses serins. Elle est renversée, les malheureux blottis dans un coin. Qui a pu la porter ici?
C'est moi, dit la jolie petite fille à moitié cachée derrière une malle. Puisque je vais partir avec vous, j'ai apporté mes bagages et je ne veux pas laisser mes serins.
Hélène. Mais, ma petite chérie, on ne peut pas les mettre dans une caisse, ils étoufferaient.
Ni les tenir à la main, ce serait trop embarrassant.
Comment les as-tu descendus de ta chambre?
Alice. Ma bonne était sortie, j'ai pris les oiseaux sur la table.
Personne ne m'a vue. Quand j'ai ouvert tout doucement la porte de l'escalier.
Hélène.
Regarde ton tablier, il est tout mouillé. C'est l'eau de la cage qui se sera renversée. Oui, parce que je suis tombée, dit le bébé en pleurant. Mais ce n'est rien et mes serins partiront.
Hélène. Non, vraiment, ce n'est pas possible. Je n'emporte pas non plus ma tourterelle, moi.
Ça m'est égal, je veux mes serins.
Et Alice, tout en larmes, frappant du pied, ne voulait écouter aucun des raisonnements qu'on lui faisait. Attirée par le tapage, Madame de Berneuil arriva.
« Alice, dans quel état je te trouve ?»«
Alice, n'est-ce pas maman que mes serins iront à Trouville ? Je veux les voir tous les jours et les baigner dans la mer. » Madame de Berneuil, « Tu ne sais pas ce que tu dis, mon pauvre amour. Ce serait faire mourir les oiseaux. Écoute plutôt ce que je vais te dire. Si tu es sage, oh, mais très sage, me promettant de ne plus te mettre en colère comme tu viens de le faire. Ce qui est très laid, je t'achèterai une poupée qui se baignera mieux que toi car elle saura nager. »
Alice. « Oh oui, je serai sage. Où est-elle? Je veux la voir. A-t-elle des cheveux? Comment est-elle habillée ?»
Madame de Berneuil. « D'abord, les petites filles ne disent pas « je veux » et puis « elle est chez le marchand et je te la porterai. » La petite Alice, que l'on appelait généralement Lily, sauta au cou de sa maman, essuya ses larmes et suivit Hélène qui remettait la cage d'aplomb et l'allait reporter à sa place. Ces pauvres petits habitants se mirent alors sur leur perchoir. On leur donna de l'eau fraîche pour remplacer celle qui avait été renversée, et aussi du grain, ce dont ils remercièrent par leur jolie chanson. Les enfants, avec l'aide de leur bonne Mariette, continuèrent les emballages. Au bout de quelques instants, Blanche et Hélène prièrent leurs frères de ne plus s'en mêler. Dans leur zèle, ils faisaient mauvaise besogne, mettant de lourds dictionnaires sur des robes légères et des paquets de chaussures dans le compartiment des chapeaux. Hélène.
Vois donc, Léon. « Comme tu es insupportable, toute ma musique est tachée par du liquide sortant de la boîte que tu as posée dessus. Ouvre-la. Qu'est-ce que cela peut être ?»
Léon, tout tranquillement. « Oh, c'est un flacon de colle que j'ai oublié de boucher avant de l'enfermer. Il s'est répandu sur toutes les couleurs, qui forment maintenant une bouillie d'une drôle de nuance. Regarde donc, Hélène. »
Hélène impatientée. « Dépêche-toi plutôt de réparer ta maladresse. Porte sur la fenêtre les couleurs qui ne sont pas trop abîmées pour qu'elles sèchent au soleil. » « Arrange ta boîte qui est en piteux état, et ensuite ne te mêle plus de rien, je t'en prie. »
Hélène poussa son frère jusqu'à la porte et revint essuyer les feuillets de musique victimes de l'étourderie du jeune garçon. Blanche, de son côté, se débarrassait de Maurice et de ses taquineries. Les caisses se garnirent alors rapidement de tous les objets inscrits sur la liste de Madame de Valery et de bien d'autres encore apportés par chaque enfant. Il était près de 6 heures. Madame de Valery entrant.
« Mariette, faites-moi le plaisir d'aller montrer à Nicolas comment on met le couvert. Il n'a pas profité de la leçon qu'on lui a donnée hier, et jamais il ne saura comment s'y prendre si on ne l'aide pas. »
Mariette sort. Madame de Valery.
« Figurez-vous, mes enfants, qu'en traversant la salle à manger, j'ai eu un spectacle inouï. J'avais dit à Nicolas de mettre le couvert pour 12 personnes. Il y avait bien en effet 12 chaises placées autour de la table. Devant ces chaises, 12 verres dans lesquels s'épanouissaient les serviettes sous différentes formes, et au milieu de chaque serviette étaient plantés le couteau, la cuillère et la fourchette. C'était un miracle d'équilibre. À la place que je devais occuper, toutes les assiettes en pile, sur la table, tout le dessert aligné comme un régiment. En avant, la jatte à crème suivie de 4 compotiers de fruits, puis ceux plus bas contenant les petits fours, et enfin la cloche à fromage qui semblait fermer la marche. Nicolas, c'est clair, comptait nous éblouir. Il apparut tout décontenancé lorsque je lui ai dit que ce n'était pas du tout comme cela que se mettait le couvert à Paris. Quel service tout de travers allons-nous avoir ? En effet, pendant le dîner, il n'y eut sorte de bévue que ne commit le malheureux domestique, ce qui excita la joie des enfants. Ce ne fut que rire plus ou moins étouffé. Au potage, il commença par avertir de ne pas se brûler, parce que la soupe était chaude. La femme de chambre bat.
« Taisez-vous donc, Nicolas. On sert à table sans rien dire. Allez-vous recommencer à nous faire honte comme hier, lorsque vous avez dit à Monsieur de Livry de se méfier des écrevisses parce que ces bêtes-là pinçaient ?»
Nicolas. « Pardine, fallait-il pas mieux lui dire, puisque j'en savais quelque chose, et mon doigt encore mieux. L'avait-elle pincé, la vilaine bête, lorsque j'avais voulu la prendre sur la table de la cuisine ?» Encore, ce n'était pas une rouge, et les rouges doivent être pires que les noirs.
Mariette. Vous êtes vraiment trop nigou. Ne savez-vous pas qu'elles sont noires, étant vivantes et deviennent rouges en cuisant?
Alors elles ne peuvent plus faire de mal, puisqu'elles sont mortes.
Mais ôtez donc les assiettes. » Nicolas, tout ahuri de ce qu'il venait d'apprendre, se précipita sur les assiettes et commençait à enlever bruyamment, creuses et plates, tout ensemble, quand Mariette vint à son secours. « Laissez-moi finir et passez les hors-d'œuvre. » Nicolas, tout bas, se parlant à lui-même.
« Hors-d'œuvre, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est ordure qu'elle a voulu dire. Les petites saletés de... sur la table, quoi. Il y a une brosse pour ça, mais je ne vois encore rien sur la nappe. Essayons toujours. »
À peine parut-il avec la brosse en question qu'un coup d'œil de Madame de Valery le renfonça dans l'office. La suite et la fin du repas furent dignes du commencement. Après le dessert, Nicolas demanda à haute voix s'il fallait apporter le café et le pousse-café. Monsieur de Valery répondit vivement que les femmes de chambre achèveraient le service et s'empressa d'offrir le bras à sa belle-sœur pour quitter la table. Il était évidemment de mauvaise humeur. Les enfants, qui avaient dû sous son regard réprimer leur accès de gaieté, furent enchantés de se trouver seuls dans le petit salon. La soirée ne fut pas longue. On songeait trop à l'heure matinale du lever pour vouloir la prolonger. Dès 9 heures, « Bonsoir, oncle, bonsoir, ma tante. Dormez bien, enfant. » Et autres phrases de même sorte se mêlaient aux baisers des deux familles qui, le lendemain, à pareille heure, seraient bien loin l'une de l'autre.